Bonsoir à tous, il est 22h05, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Etaré Crack. Ce soir, nous sommes en compagnie de Holly Strays, salut Sébastien.
Bonsoir.
De Camille, salut Camille.
Bonsoir.
Et de Benjamin.
Salut.
Qui va commencer avec une chronique sur Kitchen's Floor.
Donc c'est parti. Dans cette chronique, je vais vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de 2013, découvert par hasard sur la toile en passant de blog en blog. Il s'agit d'un groupe australien au nom aussi énigmatique que trivial, qui s'appelle Kitchen's Floors, et ce soir je vais m'intéresser à leur dernier album qui s'appelle Look Forward to Nothing. Sorti en 2011 sur Bedroom Suck Records, Look Forward to Nothing est sorti du cerveau malade d'une personne, celui d'un jeune Australien vivant à Brisbane et répondant au nom de Matt Kennedy. Kitchen's Floors, c'est son projet à lui, en quelque sorte sa bouée de sauvetage. Je dis bien son groupe parce que le personnage a quelques penchants pour l'autodestruction et l'alcoolisme, malgré son apparent jeune âge, et d'après ses propres mots, il peut devenir vraiment affect à vivre. En découle donc un line-up vraiment très instable, évoluant au fil de ses embrouilles avec les personnes jouant à ses côtés. Vivant dans une vieille bâtisse délabrée de la banlieue de Brisbane, qui lui sert à la fois de résidence, de salle de répétition, mais aussi de concert, Matt Kennedy a passé le plus clair de son temps à noyer son chagrin dans l'alcool, à faire de la musique et à s'imprégner, malgré lui, du profond mal-être en fait, qui réside dans ces banlieues de la Gold Coast australienne. Et on va tout de suite écouter un premier extrait de cet album qui s'appelle « No Love ». À l'écoute de cet album, ce qui transparaît de manière évidente, c'est la sincérité et vraiment l'honnêteté du propos. Ce Matt Kennedy est un type vrai qui a très envie de partager sa déprime et son dégoût de la vie avec vous. On sent que sa musique est vraiment son exutoire, sa thérapie de couple entre lui et ses démons. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il arrive à nous convaincre que sa vie est plus ou moins merdique en à peu près 20 minutes durée totale de l'album. Les morceaux s'enchaînent vraiment sans fioritures, sans arrangement, ils attaquent direct et ils vont droit au but pour serrer toujours un petit peu plus la gorge de l'auditeur. Mais faut se rassurer, dans ce brouillard vraiment déprimant, le malaise n'arrive pas de face. Il est dissimulé sous des riffs et des mélodies tordues et passe par le prisme d'un mélange bâtard de noise rock, de post-punk, un peu de tout ça sans vraiment appartenir à l'une ou l'autre de ces sacro-saintes chapelles musicales dont Matt Kennedy semble se foutre vraiment royalement. L'important pour lui, c'est vraiment de jouer et d'oublier la réalité de sa vie et son évidente dépression. On écoute tout.
Oh,
je vous parlais juste avant le morceau de la médiocrité de l'existence de Matt Kennedy, et elle est visible avant même d'avoir posé vraiment le disque sur la platine. Il y a juste à regarder la pochette du disque pour s'en convaincre. Une simple photo de lui, donc assis sur son lit dans ce qui semble être sa chambre. Une chambre où on n'aurait même pas envie de dormir tellement ça a l'air sale et dégueulasse. Matt vit ici depuis longtemps et on pense qu'il a abandonné l'idée de maintenir un minimum d'ordre et de propreté. Les plaintes du mur, autrefois blanches, sont devenues vraiment jaunes de crasse, tout comme son matelas et son oreiller. Sur la pochette, il est assis là, sur son lit, le regard dans le vide, avec une simple ampoule qui tombe du plafond et qui éclaire la pièce, donc c'est assez lugubre. Pour la petite histoire, il faut savoir que le jour où la photo a été prise, c'était un lendemain de grosse biture pour Matt, qui avait complètement oublié qu'il fallait faire la pochette de son disque. Donc, souvenez-vous de l'état dans lequel vous étiez le lendemain de votre plus grosse cuite, vous pourrez au moins partager un peu du quotidien de Matt. Quand je disais tout à l'heure que la déprime de ce disque n'arrivait pas frontalement, le titre qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Everyday, en est l'illustration parfaite. Les mélodies ne sont pas tristes à en pleurer, mais on sent qu'elles sont vraiment gorgées d'une espèce de nostalgie, de mélancolie à la fois douce et aigre en même temps. Elles ont un je ne sais quoi qui file le bourdon sans non plus jamais tomber dans le pathos. Donc en définitive, ce disque, c'est une certaine vision du mal de vivre, à la fois touchante et séduisante, qui fait que, malgré le nombre d'écoutes assez élevé, l'album garde tout de même son charme. Et on aime bien y revenir dans cette vieille baraque de Brisbane. Voilà, c'était Kitchen's Floor. Donc je vous ai passé dans l'ordre les morceaux No Love, Insects, Everyday et 24. Donc tous tirés de l'album Look Forward to Nothing du super groupe Kitchen's Floor. Courez l'acheter, Maxime, c'est à toi.
Merci Ben. On va enchaîner avec un titre de Placenta Popeye avant de revenir à Sébastien Olistrays, à nos côtés. C'est un titre extrait d'un 45 tours sorti sur Tante Process. Donc c'est le label de Joe qui joue dans ce groupe-là, qu'on a reçu il y a deux, trois émissions, dont le podcast est encore en ligne, et qui a fait son premier concert depuis 2008 aux Instants Chavirés samedi dernier. Ça a duré un quart d'heure et c'était absolument génial. Donc si vous connaissez pas Joe, il joue également dans Opéra Mort, Fusillé, Le Femme également. Et son compère Patrick Combs est un guitariste très très impressionnant qui a accompagné le premier groupe qui jouait samedi soir aux Instants Chavirés, qui s'appelle La Ligne Claire, et qui est capable vraiment d'énormément de choses, c'est très très éloigné de ce qu'on va écouter. Et c'était plutôt une forme de pop hyper branlante, complètement improvisée. Et vraiment, c'était un grand guitariste. Donc, il s'appelle Patrick Combs et tous ses projets sont très intéressants. Placenta Popeye sur Atari Crack. Toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Atari Crack, avec à l'instant un morceau de Placenta Popeye. Et nous en venons à notre invité, Olistrays, projet initialement débuté comme un projet parallèle à toute formation musicale. Olistrays n'est encore qu'embryonnaire quand les Californiens de Not Not Fun lui proposent de sortir ses premiers morceaux sur cassette en 2010. avec pour seul instrument un orgue comme technologie à disposition Audacity. Hyperion, son premier effort, connaît un certain succès, et Holistrace a l'honneur d'être un des seuls français, aux côtés de High Wolf, à sortir sur le Not Not Fun. Après 2,45 tours, Holistrace prend une forme nouvelle, le son est plus propre, bien mixé, et les morceaux s'affinent pour devenir de petits miracles où il est aisé de se laisser hypnotiser. Son premier EP, Chiasme, est sorti en fin d'année dernière et nous offre, enfin, une vision juste du projet de Sébastien, à la fois complexe, accrocheur, fin dans les constructions et qui reflète un large spectre d'influence du dub à la techno en passant par l'afrobeat. Yo Sébastien.
Salut, bonsoir.
Tu peux nous expliquer comment t'as commencé à faire de la musique, du coup ? Comment t'as commencé Holistrace, surtout en particulier ?
Comment j'ai commencé à faire de la musique ? J'ai commencé par les percussions, en revenant d'un voyage en Afrique. Quand j'avais 8-9 ans, j'ai passé 2 ans au Gabon, j'ai découvert les percussions là-bas. Je suis revenu, j'ai commencé à prendre des cours de batterie. Ça m'a paru naturel, et puis c'est vraiment vers les percussions que je me suis tourné spontanément. Alors après, Holistrace, c'est né à un moment où j'avais plus de projet, enfin j'avais plus de projet collectif, j'avais pas vraiment de groupe, j'avais juste mes études au conservatoire, et puis j'ai commencé à enregistrer des esquisses tout seul, et bah justement c'est celles qui se sont retrouvées sur la première cassette,
ouais.
Ces 6 premières esquisses, c'est vraiment les 6 premiers morceaux que j'ai fait, enfin tout ce que j'ai fait est sorti en fait, dès le début je voulais pas forcément, mais bon, malgré moi c'est sorti, et puis c'est pas forcément un mal, parce que Not Fun m'a donné une visibilité, pas forcément en France, mais du coup plutôt dans la scène free music expérimentale californienne, Drone, à laquelle était affilié le label
à l'époque,
il y a 3 ans et demi, quoi. Parce que ça va faire 3 ans et demi, ça va faire 4 ans que je fais ce projet. J'ai pas été très productif, mais ça fait déjà 4 ans. Et voilà, le projet a commencé de manière naturelle. J'avais pas vraiment de nom, j'avais pas non plus vraiment l'idée de débuter un projet solo. C'est plus le label qui m'a donné envie justement de creuser cet aspect,
qui
m'a
encouragé. C'est ça. Hein.
Sortir sur ce label.
C'était l'époque MySpace, quoi. 2010, c'était la grande époque MySpace. Et ils m'ont contacté. En fait, c'est un des gars qui était. Comment il s'appelait ? C'était Rio de Topping Bottoms, je crois.
Ouais.
Le groupe japonais qui m'a dit : ouais, tu devrais absolument envoyer ça à Brité Amanda, ça va leur plaire. Du coup, je l'ai fait. Et je l'ai fait par la poste parce qu'ils aimaient recevoir des démos et je crois qu'ils aiment toujours recevoir des démos par la poste. Brité Amanda, ils sont vraiment.
C'est cool. Donc je leur ai fait la cassette.
Hein. Exactement, je leur ai fait un petit CDR avec un joli packaging et tout. Et puis Amanda m'a répondu 2 semaines après. Elle m'a dit c'est mortel, on va sortir le morceau. Moi j'étais là, oui, mais c'est quand même des démos absolument dégueulasses, quoi. Enregistré avec un micro USB dans ma salle de bain, j'avais même pas d'ampli, ça sortait directement des enceintes de mon espèce de d'orgue Yamaha. Enfin vraiment, je l'utilise toujours, je l'adore, mais maintenant je l'utilise avec un jack. J'avais tout enregistré même sans jack, donc du coup je leur ai dit c'est vraiment, ils m'ont dit non, il faut qu'on le fasse, les morceaux sont géniaux. Et puis
et du coup ils ont sorti les morceaux tels quels ou t'as dû les réenregistrer un peu plus propre?
Absolument, ouais, non, okay. Rien réenregistré, tout est sorti tel quel. D'ailleurs Maxime en témoignera, il a la cassette et c'est vrai que c'est vraiment extrêmement
le brut, quoi. Ouais, par rapport à ce que t'as fait après.
Vraiment... Ça avait un certain charme aussi parce que finalement c'était vraiment les premières esquisses et puis moi j'y suis attaché à ces morceaux. Après je sais pas si ça aurait dû sortir parce que c'était vraiment les 2 premières semaines de travail. J'ai juste gardé des idées, j'avais noté des lignes de basse, j'avais écrit des lignes de basse que je voulais garder donc je les ai enregistrées et puis voilà, c'est sorti, quoi.
Bah, en même temps c'est quand même, ça a bien fait de sortir parce que à partir de ce moment-là c'était lancé. Ça t'a donné au moins l'idée qu'il fallait continuer ce projet alors que t'aurais peut-être pu commencer autre chose et du coup ça lui a donné naissance
une légitimité, ouais. Je pense pas que j'aurais pas forcément continué tout seul s'il n'y avait pas eu Not Fun.
Puis en plus t'as vraiment évité de passer par la case galère, du coup t'as essayé de faire un truc et puis ça marchait, quoi,
c'était assez hallucinant, mais moi je reconnais que j'ai vraiment de la chance, quoi.
Ce qui était drôle en plus c'est que c'est le moment où en France Not Fun a fait une grosse interview dans Noise.
Oui,
et du coup, c'est le moment où en fait les Français ont entendu parler. Tout et t'étais le seul, enfin avec High Wolf, à sortir sur ce label-là, quoi.
Exactement. Non, ça a été une chance incroyable. Puis ça m'a donné envie d'écouter cette musique-là, de découvrir les groupes. Enfin, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment écouter de la musique expérimentale, du drone, diverses musiques, même électroniques, du krautrock. C'est des musiques dans lesquelles j'avais pas baigné du tout jusqu'à cette époque-là, quoi.
D'accord. Et du coup, t'as sorti un 45 tours juste après ?
Ouais, enfin, un an après.
Ouais,
un an après.
Qui déjà
est marqué une étape
très différente.
Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que là, je m'étais acheté mon premier synthé, j'avais commencé à produire, à mixer tout seul, de manière un peu plus professionnelle, entre guillemets, même si ça reste très lo-fi aussi.
C'est sur Audacity aussi.
Tout ça sur Audacity. Mais bon, j'ai pas honte de dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a été mixé et produit sur Audacity, quoi. même mon dernier EP, quoi.
Le promoteur du logiciel
vraiment,
libre.
Je suis vraiment hyper attaché à ce logiciel, quoi. Là, je pense que je vais passer sur Cubase ou quelque chose, mais on s'en fout. Mais c'est vrai qu'Audacity, c'est un peu le...
C'était la matrice.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc. J'ai une connexion assez particulière avec cet outil, quoi. Qui est vraiment brut, il n'y a ni séquenceur, ni effet, rien du tout, quoi. C'est la liberté totale.
Et du coup, il y a quand même aussi un changement de tonalité, je pense, entre la cassette et le premier 45 tours. Genre, Enlightenment, par exemple, est une chanson plus calme, un peu plus sombre, et surtout, tu as commencé à largement plus varier ta gamme instrumentale, parce qu'il y a de la guitare, il y a du chant pour la première fois.
Ouais,
c'est toi
ouais,
qui chantes, en plus.
Ouais.
Alors que tu n'as jamais chanté sur scène.
Non, j'ai jamais eu le courage de passer à l'acte sur scène. Chanter tout seul, c'est quand même difficile. Surtout que je fais tout, je recrée tout sur scène.
Ouais, on parle.
Donc, du coup, je joue vraiment et c'est difficile de chanter en même temps. Quoi.
D'accord.
Mais là, du coup, c'est un truc que tu espères faire plus tard ou pas maintenant?
J'aimerais bien commencer. Ouais, tout à fait. Après, la voix reste discrète et tout ce qu'il y a de ma voix... Ouais, même sur... Il y en avait sur la première cassette, mais c'était vraiment des nappes instrumentales, donc elles sont complètement noyées dans le synthé. Progressivement, je l'ai utilisé, mais après, là, même sur l'EP, ma voix est hyper retravaillée, quoi. Et souvent, bon, on ne distingue pas vraiment les voix que j'ai pu sampler.
Voix que tu utilises
Ouais, voilà, à la tout à fait. Ouais.
On va écouter un morceau, du coup, que tu as un des premiers morceaux de lui, le morceau du 45 tours suivant, Frenesia. Non, c'est
Christabel. J'ai pas Frenesia sous la main, mais.
En effet.
Ouais, là, c'est mon deuxième single du coup qui est sorti à l'été 2012.
Exact.
Sur Morning Ritual, un label londonien.
Mais qui n'a jamais eu d'autre existence que ton disque et celui de O.
Il y a eu O et il y a eu une cassette aussi de John Fernandez. C'est un projet pop, lo-fi aussi, assez intéressant. Morning Ritual, c'est un label où j'ai l'impression qu'il obéit vraiment à ses coups de cœur et il sort la musique qui lui plaît, quoi.
Okay.
Donc c'est trois projets complètement différents, mais si le label est toujours actif, je sais pas trop ce qu'il va faire cette année, mais
ok,
voilà.
Bon, écoutez,
donc Christabel, face B là. We'll be right back.
L'écoute d'Etare Crack sur Radio Campus Paris en compagnie de Holly Strays avec un morceau d'Angel of Light que tu viens de choisir, c'est ça?
Ouais, tout à fait, c'était All Souls Rising. C'est un de mes albums préférés d'Angel of Light, puis même de Michael Gira en général, qui est lui-même un de mes songwriters préférés.
Donc le leader des Swans. Hein.
Ouais, un groupe que j'affectionne particulièrement, qui m'a influencé, toutes les périodes m'ont influencé. Je pense que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je pense il y a ouais, 4-5 ans.
Ouais.
C'est vraiment un groupe qui a changé ma vision du rock en général, quoi.
C'est vrai qu'il y a quand même énormément de périodes de choses, quoi. Autant les premiers trucs hyper lourds du départ jusqu'à des aspects plus folk.
Ouais, tout à fait. Ouais, ils ont même influencé le black metal, quoi. Finalement, les premiers étaient vraiment d'une violence extrême.
Ouais, noirceur, c'est terrible. Hein, ouais,
avec deux ou trois batteurs, énormément de percus. Donc, ça, forcément, ça m'a touché.
Ouais.
En tant que batteur, ça, c'est fallait s'y attendre, quoi. Mais, mais ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Toutes les périodes sont impressionnantes, quoi. Même les périodes plus folles que moi j'aime aussi finalement. Parce que
Children of God, c'est un album qui est magnifique.
Ouais.
Toute la période où il y a Jarbo aussi.
Ça. Ouais, Children of God, ouais, c'est un monument, un sacré monument.
Effectivement, ouais. Et donc ils ont une activité nouvelle maintenant, parce qu'ils ont sorti donc, deux albums là depuis.
Ouais, tout à fait.
Après un hiatus de bien 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Où Jarbo est même revenu sur le dernier album
d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est des belles interventions à chaque fois. Ouais, c'est vraiment très beau. Même le dernier, The Seer, moi, je l'ai adoré. J'ai pas eu la chance de le voir sur scène encore.
Et ça, c'est. Voir.
Je vais me rattraper en 2014, définitivement.
Ouais, ouais. Bah, il tourne régulièrement, donc faut en profiter.
J'essaierai de lui glisser un petit vinyle à la fin du concert. Quoi. Il a l'air assez abordable, finalement. Donc,
ouais, je pense que c'est
derrière son, sa dégaine de ténue texan. Mais...
D'ailleurs, t'avais filé une de tes cassettes à Ali.
Ali Perry.
Ouais. Ali Perry, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un concert. Ouais, je sais pas ce qu'il en a foutu, mais. Mais il revient, Ali Perry. Là, il a une activité. Avec The Orb, il a fait un sacré album. Là, il a remixé Forest Swords. Et je suis en contact souvent avec Matt de Forest Swords, donc du coup, on en a parlé, c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Il a été remixé par le maître originel, quoi, donc c'est assez impressionnant. Non, lui aussi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, quoi, Ali Perry, c'est un sacré monument, même du son, quoi, enfin, l'évolution des techniques sonores au XXe siècle, ouais, c'est
Ali Perry, quoi. Ça lui donne beaucoup, en effet.
Ouais, il est incroyable, et sur scène, il est incroyable. Il est avec sa valise, je sais pas ce qu'il y a dans sa valise, mais il a toujours sa valise sur scène. Il est absolument extraordinaire, quoi. il est toujours avec sa valise, donc il arrive avec sa valise, il chante et puis il repart avec sa valise. Puis c'est vraiment un petit papy maintenant, mais un petit papy fou.
70, ouais. 75 ans, quelque chose comme ça.
76, ouais, je crois.
76 ans, c'est en vieux.
Puis bon, ouais, c'est sûr qu'il a, il a eu des périodes de drogue intense à mon avis, quoi.
Ah bah, je pense que
c'est un magicien maintenant, c'est vrai qu'il est, c'est un espèce de savant fou, quoi.
Il a, mais il a brûlé son studio, c'est ça, dans les années 80, je crois, quelque chose comme
ouais,
ça.
C'est ça. Bah, c'est le ouais, c'était le Black Ark.
C'est ça. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et il refusait à un moment d'utiliser des consonnes parce qu'il pensait que les consonnes étaient des lettres blanches. Ou des voyelles, les voyelles en fait.
Oui, il y avait quelque chose comme
ça. Il avait décidé que les voyelles étaient des lettres blanches, donc il parlait uniquement avec des consonnes, ce qui ne pouvait plus rien dire en réalité.
Ouais, il avait inventé son propre langage. Et d'ailleurs, quand on l'entend en interview aujourd'hui, on a l'impression qu'il parle son propre langage.
Il parle comme les Manji un peu.
Ouais, c'est ça. Exactement, il a un langage codé, quoi. Il est un peu...
En parlant de Forest Ford, c'est peut-être l'occasion d'aborder le sujet des remixes pour toi, parce que t'as remixé Forest Ford il y a peu de temps.
Il y a 2 ans en fait.
Il y a 2 ans, ouais.
Déjà 2 ans.
Déjà 2 ans.
Mais ça va vite avec les études. C'est vrai que j'ai pas été hyper productif, mais. Pour moi, le projet est toujours hyper récent, donc c'est vrai que j'avais pas l'impression que ça fait bientôt 4 ans que la première cassette est sortie, mais. Pour moi, c'est toujours un projet neuf. Surtout que là, je commence vraiment à apprendre comment m'en sortir par moi-même sérieusement. Ouais. Donc, du coup, c'est à chaque fois, c'est un renouveau, quoi. Mais ouais, Forest Sword, c'était le premier remix que j'ai fait. Je pense que c'est mon préféré aussi.
Ouais.
Et ouais, ça a été quelqu'un d'important. Je pense que quand j'ai découvert la scène Not Not Fun, je l'ai découvert lui en même temps.
Bien sûr.
Et du coup, il y a une espèce de. Je me suis toujours reconnu dans sa musique. Je pense qu'il y a une part de réflexion dans l'environnement, je pense, qui fait que ouais, je me suis toujours identifié à sa musique. Et du coup, même humainement, c'est quelqu'un de vraiment chouette, quoi.
Et assez proche. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des influences qui vous sont assez communes, par exemple, je pense, au niveau
ouais.
de la dub.
Au niveau du dub, ouais, c'est clairement une grosse influence. Et puis même, l'utilisation de l'espace, et puis ce côté à la fois improvisé et très, très écrit dans la musique. Peut-être un peu aussi très visuel, quoi. Un rapport très visuel à la musique. Je sais que lui, il est graphiste, donc forcément, je pense même au-delà de moi, il a un rapport très visuel à la musique. Mais moi, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose. Enfin, en tout cas, avec Olistray, c'est vraiment dans cette direction que je travaille, quoi.
Et t'as remixé qui d'autre, du coup?
J'en ai fait plusieurs. J'ai même presque autant de remix que de morceaux originaux. J'ai remixé Lonny Dare, un mec, un Suédois, qui a au moins 10 ans de carrière. Qui est plutôt folk pop,
ouais.
En fait. J'ai remixé Philco Fiction,
ouais.
Qui est un groupe suédois aussi, qui fait de la pop. J'ai remixé des gens vraiment très différents, Tristesse Contemporaine.
Ouais, c'est vrai.
Puisque, ouais, bon, là, ils ont une actualité foisonnante en ce moment, ils viennent de sortir leur album. Et... Donc, ouais, Tristesse Contemporaine aussi, c'était vraiment un honneur de les remixer. J'ai remixé O pour Morning Ritual aussi,
yes.
Qui est aussi un de mes remixes préférés.
Enfin, Trésor aussi, non ?
Et j'ai remixé Trésor aussi, ouais.
Avec qui t'as joué.
Ouais, tout à fait, ouais.
T'as un espèce de projet, non, d'ailleurs ?
On a un projet d'enregistrer ensemble en avril, ouais, fin avril. On a tourné ensemble un petit peu, et à la fin des dates qu'on a fait ensemble, on avait toujours une jam en commun. C'était absolument n'importe quoi, mais c'était génial. Surtout à Nantes, je me rappelle, j'ai vraiment bon souvenir de cette date, quoi. À la fin de leur set, on a fait une jam d'un quart d'heure, et c'était absolument tout à fond, quoi.
D'accord.
Maximum volume, maximum gain, tout, quoi. Tout à fond, et c'était génial. Et donc, du coup, on va enregistrer ça plus proprement... au studio Red Bull d'ailleurs, donc j'ai bien hâte. C'est tous les deux des musiciens incroyables, et je partage beaucoup avec eux au niveau des influences, au niveau de la direction musicale. Puis
c'est des proches aussi,
c'est des proches aussi,
d'accord,
ouais.
Et ton dernier album est sorti à la fin de l'année dernière,
ouais, tout à fait, en octobre, ouais.
Qui est enfin ton premier effort, ton premier EP,
mon premier EP, ouais.
Après, ouais. Donc 3 ans où t'as composé au fur et à mesure, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, j'ai jeté énorme. Enfin, j'ai pas jeté, mais j'ai eu du mal à terminer les morceaux. Surtout, enfin, je sais pas si c'était parce que j'avais un emploi du temps pris, qu'il y avait la fac, les impératifs à côté. Mais tous les morceaux qui sont sortis, c'est ceux que j'ai réussi à écrire en une semaine. Et quand je passais plus d'une semaine à écrire un morceau, je perdais de vue l'idée originelle. Donc j'avais tendance à trop en rajouter. Et plus j'en rajoutais, plus je m'éloignais de cette idée, et plus je me lassais. Donc du coup, j'ai énormément de morceaux qui sont pas sortis, vers lesquels je reviens. Par exemple, Christabel, la face A, c'était un morceau que j'avais depuis très longtemps, que j'ai repris parce que au moment où je l'ai réécouté, ça m'a touché, puis j'ai eu envie de le poursuivre. Mais ouais, il m'a fallu 3 ans pour faire un premier EP. Je suis assez fier de ça. Hein. J'ai pris mon temps. C'est vrai que surtout à l'ère internet.
Ouais, c'est un peu la difficulté, rare, en fait.
Donc du coup, ouais. Bon, après, je l'ai pas cherché non plus. Je me suis pas dit, bon, je vais faire le réac et je vais mettre 3 ans à composer un EP. En plus, enfin, c'est vraiment parce que il a aussi fallu que j'apprenne. Bon, je pouvais pas. La première cassette sur Not Not Fun, c'était génial, mais j'avais aussi envie d'aller ailleurs et que ça serve un peu aussi mes idées et puis mes ambitions, entre guillemets, quoi. Au niveau musical, tout simplement, quoi. Au niveau du traitement du son, j'avais envie d'aller un peu ailleurs, même sans tout aseptiser, parce que de toute façon, l'EP n'est pas... La production n'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas non plus très aseptisé, quoi.
Non, c'est pas très aseptisé, mais en tout cas, c'est un grand pas en avant.
Ouais, c'est un grand pas en avant pour moi, ouais, c'est sûr.
Par rapport à ce que tu faisais auparavant.
Tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça, ça m'a pris du temps, il a fallu que j'apprenne.
Et t'as réussi, en fait, à peut-être un peu sortir de l'ornière dans laquelle t'étais tombé au bout d'un moment, c'est-à-dire de... Peut-être que ça se sentait plus sur scène, le fait que tu passais d'une couche à une autre toujours, et t'avais tendance à en rajouter énormément, parce que donc ça fait quelque chose parfois de trop dense en fait.
Ouais,
du coup, t'as réussi peut-être un peu
à. J'avais envie qu'on entende les instruments, quoi. Tout simplement, j'avais envie juste de pas saturer l'espace sonore. C'est vrai qu'au début, les lives, quand on m'a demandé de faire un live, le premier c'était à Lyon avec Sonaro, c'était génial d'ailleurs. Mais j'avais juste ma pédale de loop, donc un looper de guitariste avec mon synthé. Et j'essayais de recréer les morceaux en partant de rien, quoi. J'avais rien enregistré, donc je faisais mes loops de batterie ou mes loops de synthé ou mes loops de basse, et puis j'empilais, je jouais par dessus, il y avait des parties complètement improvisées, ensuite je déconstruisais, je repassais à une autre boucle, mais il y avait un côté un peu trop simpliste, quoi, dans la démarche. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de servir un peu plus les nouvelles compos en apportant en live quelque chose de plus construit et puis de plus évolué. Et puis finalement, le live a aussi nourri après mes compos derrière. J'ai eu envie de créer quelque chose de différent.
Ce qui était assez amusant à l'époque, parce que je sais pas, je t'ai vu quand même peut-être pas loin d'une dizaine de fois.
Ouais, c'est vrai.
Depuis qu'on se connaît, et c'était que chaque live en fait reflétait un peu aussi tes influences du moment. C'est-à-dire que tu pouvais. Il y a eu un moment où tu étais très influencé par le hip-hop, et du coup, toutes tes rythmiques, tu les recrées sur scène avec dans un état d'esprit plus hip-hop, enfin, une dynamique un peu comme ça. Il y avait un côté assez amusant, c'est qu'à chaque live que tu faisais. On ne savait jamais très bien la couleur que ça allait prendre. En fait, même si tes compositions restaient les mêmes, elles prenaient toujours une forme différente.
Ça, c'était bien. C'était vraiment le côté joué qui était intéressant avec la première config que j'avais sur scène, quoi. C'était vraiment très minimaliste. Ouais, c'était un côté intéressant, ça. Mais même moi, j'arrivais. Bon, je me rappelle le live que j'ai fait en première partie de Zelda Jesus au point éphémère. Où c'était sale comble 2 semaines avant. Et c'est vrai que c'était hyper stressant. Ça, c'était vraiment un moment. Mais c'était génial. Et du coup, je suis arrivé sans vraiment savoir ce que j'allais jouer. Mais même vraiment, je suis arrivé sur scène, je savais pas ce que j'allais jouer. C'était ultra spontané. Et j'ai perdu un peu ce côté-là avec l'EP.
La technologie que t'as aussi.
Oui, et puis avec la manière dont je travaille en live maintenant. Mais là, c'est un truc que j'essaie de récupérer. Ce côté, bon, j'ai envie de me surprendre aussi moi-même sur scène, arriver. Parce que du coup, c'est pas un format pop, c'est pas un format écrit. Enfin, même si dans les enregistrements, c'est très écrit. Mais j'ai envie de pouvoir déconstruire et puis vraiment surprendre moi-même, improviser, quoi.
Quelle liberté, justement, t'avais avant, si. Parce que quand on pense à ce que disait Maxime tout à l'heure, tu sais, avec un loop, en gros, t'es un peu coincé, entre guillemets. Ouais. C'est une contrainte formelle assez.
C'est linéaire, du coup, en fait.
Voilà, enfin, c'est progressif, on va dire.
Ouais, c'est ça, c'est l'empilement. Ouais, exactement. Ouais.
Et du coup, toi, tu parles paradoxalement d'impro et tu disais, je savais pas ce que j'allais jouer alors. Enfin...
Bah, en fait, oui, bah, je créais les loops en fait en fonction de ce que je jouais, quoi. Puis il y avait vraiment des erreurs des fois. Enfin,
ouais, c'est ça.
Quand tu commences un loop de batterie, en plus, bon, j'avais ce looper de guitare qui sortait en mono, c'était vraiment.
C'était sympa.
C'était vraiment très roots. Et il y avait un côté vraiment hyper spontané. Moi, il y avait un morceau que j'avais l'idée mélodique en tête, mais je pouvais tout à fait commencer. Je pouvais accélérer le tempo, changer la rythmique. Dès lors que je commençais à jouer, bon, il y avait des fois, je savais même pas comment le loop allait se terminer, quoi.
Il y a toujours un particulier qui était intéressant, c'est la danse. Ouais. Il y avait une prise de risque aussi quand tu.
Il y avait une grosse prise de risque.
C'est que tu recommençais tous tes rythmes à la main.
Ouais.
Et du coup, il y avait
je jouais les samples,
un côté physique intéressant aussi, c'est-à-dire que t'avais pas la moitié des trucs enregistrés, tu mettais play et tu jouais 3 notes, quoi. Tu refaisais tout au fur et à mesure. C'est ça qui était assez impressionnant comme démarche.
J'ai du mal à imaginer que j'ai fait des scènes comme ça avec ce setup.
Et du coup, est-ce que avec cette technique-là, il y a des concerts qui ont complètement foiré où t'étais pas calé, ou je sais pas, tu t'es planté dans l'un de tes samples et tout qui dégringole, j'imagine, à ce moment.
Il y a eu des moments un peu difficiles. Je me rappelle surtout d'un concert où, en fait, j'avais fait mon loop rythmique et j'ai voulu ajouter une ligne de basse et le looper a planté et il a loopé une mesure et demie, donc ça faisait un espèce de beat un peu breakbeat hyper chancelant, et il a fallu que je compose avec. Et c'était vraiment bon, le morceau s'est bien terminé, finalement ça a donné quelque chose d'intéressant, mais sur le coup
ça a dû être assez stressant quand même.
Mais c'est le problème, enfin, c'est les aléas aussi avec l'électronique. Je pense même avec un laptop, ça peut arriver.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Il y a toujours une part d'inconnu, quoi.
Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui change maintenant
En live?
Ouais.
Ce qui change maintenant, bon, déjà, j'ai un sampler pour jouer les voix. ma voix et puis certains enregistrements que j'ai fait, notamment les enregistrements de gospel, etc. Les voix. J'ai toujours mon clavier. Pas toujours, mais souvent. Et puis j'ai un pad percu pour jouer les percussions maintenant, en live. Et j'ai toujours j'ai un looper de guitare, mais c'est juste un looper un peu plus évolué avec trois phases. Mais du coup, j'utilise toujours, bah, je commence toujours par faire mes loops de percu, et puis j'empile. Mais du coup, comme j'ai trois phases, je peux faire des transitions.
D'accord.
Je peux construire. Ouais, et comme j'essaye de rejouer un minimum les compos, enfin, c'est un truc que je faisais pas du tout à l'époque de la cassette. Il y avait certains,
certaines. C'était les structures que tu reprenais, en fait.
Voilà, ouais. Il y avait des souches que je reprenais. Mmh. Mais maintenant, j'essaye vraiment de rejouer un petit peu fidèlement, entre guillemets, certains morceaux. Même en les déconstruisant aussi, mais bon, il y a quand même une trame qui reste commune. Et puis, donc du coup, oui, j'essaye de recréer certains morceaux. Quoi. Ça, ça a changé.
On va écouter un de tes morceaux, du coup, qui est extrait du dernier album.
Ouais, Serenade, c'est le premier morceau du EP.
Très bien, on va écouter ça tout de suite sur Radio Campus.
Oh,
toujours à l'écoute d'Ether et Crack sur Radio Campus Paris 93.9 en compagnie de Holly Strays. Et on vient d'écouter
We The People, un morceau qui s'appelle My Brother The Man, qui est sur les compiles Nuggets.
C'est une de tes grandes influences de base.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment mes années garage. J'ai eu une grosse, grosse période garage où j'avais mon groupe de garage. D'ailleurs, je pense qu'Hugo et Victor, qui m'écoutent peut-être, se reconnaîtront.
Ouais, en effet.
Et ouais, j'ai eu ma grosse période garage. Et je pense que c'est là que j'ai découvert l'orgue aussi. Ça et les Doors. Et c'est là qu'est venu vraiment mon amour de l'orgue.
Que tu as utilisé à la base de ta composition. Et qui est toujours très hyper présent.
Mon farfisage, je l'adore. J'ai un Yamaha maintenant à deux étages où je m'entraîne à jouer comme Raymond Tarek avec les basses et les mélodies. Et ouais, l'orgue, c'est vraiment. En plus, c'est pour moi, c'est comme les percussions. C'est vraiment l'instrument originel et c'est vraiment, je sais pas, c'est un instrument qui me parle particulièrement quoi. Tous les orgues. Ouais, tous les orgues.
Et est-ce que tu trouves que c'est pas un peu paradoxal finalement pour un artiste français d'avoir sorti ces 4-5 sorties que sur des labels anglo-saxons au final?
Je saurais pas bien répondre. Après, je sais pas vraiment où j'ai ma place. Donc du coup, il y a eu des labels français qui m'ont pas mal aidé aussi par la suite. Mais c'est vrai que c'est Not Not Fun d'abord. Et oui, c'est complètement paradoxal parce que bon, j'étais pendant je sais pas 8 mois, même un an à Paris, personne me connaissait et puis personne n'a jamais parlé. Enfin, on a d'abord parlé de ma cassette en Californie, puis à Berlin un peu. Puis en Angleterre un peu, puis ensuite en France. En France, surtout via Hardin, et je pense que c'est eux qui m'ont aidé à jouer à Paris, qui m'ont fait jouer à Paris, qui m'ont aidé à rencontrer du monde, et je leur dois beaucoup, je pense, à Paris.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est paradoxal, ouais, c'est assez marrant, mais je pense que c'est aussi un des avantages et un des inconvénients d'Internet, quoi.
C'est ça que t'as joué quand même principalement aussi avec des Américains, t'as fait la première partie de The Jesus de Else, non?
Non,
pas avec. J'ai failli. T'as joué avec Sons.
J'ai joué avec Sons là récemment. Bah oui, je joue qu'avec des groupes étrangers en fait. Ouais, c'est vrai. Bah j'ai joué avec toute la scène Not Not Fun dès qu'il passait en France.
Ouais, Rob Dor, etc.
Avec Rob Dor, là oui, on a fait une tournée en octobre avec Ensemble Économique, avec Umberto.
Et du coup, c'est touche un peu dans le monde anglophone, ça t'a permis d'aller jouer à l'étranger?
Ouais, aussi, ouais. Ça, c'est vraiment bien. Ça, pour le coup, c'est vraiment un des gros avantages. C'est-à-dire que bon.
En Espagne, au Portugal.
Ouais, en Espagne, au Portugal et puis en Angleterre, quoi.
Pour l'instant.
Ouais.
Et du coup, t'as quand même, je sais pas, le Guardian qui a parlé de toi.
Ouais, bah c'est.
Ce qui était assez étonnant.
Ouais, c'est
quoi.
Assez fou. Hein. C'est assez fou. En plus, ce qu'ils ont dit, c'était vraiment. Enfin, c'était vraiment pertinent, quoi. Enfin, à mes yeux, c'était vraiment pertinent, donc. C'est sûr que c'était. Ouais, ça m'a impressionné, quoi. Après, bon, c'est sorti sur un label anglo-saxon, donc qui est basé à Londres, qui a son réseau à Londres. Donc forcément, c'est les médias que ça touche.
Mais enfin, tu vois, c'est pas, c'est comme si Le Monde avait fait une chronique sur toi, alors que.
Mais Le Monde.
En fait, en papier, il y a New Noise seulement qui a chroniqué la merde.
Luc Vinogradov, c'était le premier à m'avoir interviewé pour À la recherche des sons perdus.
Ah oui, exact, oui, ouais, exact. Donc, un blog du Monde.
Ouais. Et c'est vrai que c'est comme si Le Monde avait parlé de moi, mais ça arrivera jamais parce que bon, ça arrivera peut-être, mais ouais, je saurais pas vraiment comment me positionner sur cette question. Ouais. C'est vrai que c'est. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pense que c'est juste une recette de la société Internet. Quoi.
Je me souviens aussi d'un petit article sur Pitchfork.
Aussi, ouais.
T'as eu bonne presse.
Ouais.
Deux fois.
Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est.
C'était lié aussi à notre fun et le fait qu'il t'avait repéré à ce moment-là.
Ouais. C'est lié aussi à Morning Ritual qui a fait un gros impact en lançant le label.
Ouais.
Matt a fait un travail. Ouais. Je pense qu'il a aussi une direction artistique et un regard qui fait qu'il a. Il a aussi marqué les esprits dès qu'il a lancé son label. Donc, oui, j'en ai bénéficié. Ça, c'est vraiment super. C'est sûr que bon, les médias sont importants aujourd'hui dans la musique. Faut pas en douter.
Et qu'en même temps, du coup, ton projet reste connu mais un peu confidentiel en France.
Mais assez méconnu en France, ouais. Mais c'est pas plus mal parce que finalement, même je suis pas parisien, donc je suis pas du tout. Enfin, j'ai mes amis. Voilà, il y a Trésor dans la scène parisienne que je connais. Bon, je vais voir des concerts régulièrement, quoique. Assez peu, t'es bien placé pour le dire d'ailleurs. Mais voilà, le fait de ne pas vivre à Paris vraiment, ça fait que je sais aussi rester en dehors de certaines choses. Je sais juste garder ma zone de travail, quoi.
D'accord.
Je suis un peu dans ma bulle, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais,
et surtout là, depuis que je fais de la musique un plein temps, je me rends compte que je suis vraiment. C'est presque compulsif et obsessionnel, quoi. Je suis vraiment fermé dans mon. Tout le monde me le dit d'ailleurs, c'est sûrement un tort, mais. Je suis vraiment fermé, quoi. Et le fait de ne pas être à Paris fait aussi que je me prive de certaines choses et je reste d'autant plus
un aspect de
marge,
rencontre.
Ouais, tout à fait. Ouais.
certains critiques auraient pu parler de toi, etc.
Ouais, mais... tout à fait. C'est des gens que j'ai pas rencontrés, que j'aurais peut-être pu ou dû rencontrer. Mais bon, j'ai quand même des très bons amis dans la musique. Il y a les gars de Trésor, il y a Chris de La Baleine, Hardin. Bon, il y a Thibaut, Nicolas fait plus partie de Hardin, mais on est resté proches quand même. Bon, j'ai des bons amis dans. Mais bon, c'est sûr que je me suis peut-être pas ouvert autant que j'aurais pu ou dû à Paris, quoi.
D'accord. Et t'as mentionné quand même plusieurs fois le rôle un peu justement de cette position de banlieusard dans ta musique.
Ouais.
Enfin, je sais pas, je me souviens quand tout tu parlais de, je sais pas, de Burial ou de Fortet par exemple. Enfin, de
ouais, genre
de
non, mais c'est sûr qu'il y a.
Il y a un aspect très urbain qui doit te parler quand tu prenais les trains de banlieue.
Ouais, tout à fait. Il y a une vraie mythologie, je pense. Quand t'as vécu dans l'Essonne, je pense que le RERC, il y a une vraie mythologie autour du RERC. C'est... Non, mais il y a vraiment un...
D'ailleurs, tu nous en as même parlé tout à l'heure. Ouais. C'est important pour toi.
C'est important pour moi, parce que je rentre en RER ce soir, donc c'est une véritable quête, là. Je veux dire, le temps m'est compté, quoi. Non, mais c'est vrai. Plus sérieusement, c'est quelque chose qui marque, quoi. Là, ça fait 7 ans que, bon, je le prends tous les matins... Il y a quand même... Non, mais il y a une forme de rituel, et puis même, il y a une forme de réflexion de la musique dans l'environnement, forcément, parce que les deux dialogues, quoi. Je fais pas du tout, par exemple, je me suis déjà mis à écrire ou à composer sur la côte, je fais pas du tout la même musique qu'ici. Ouais. Et puis, je fais de plus en plus de prises de son extérieures, ouais, donc ça, il y a pas mal de field recordings, depuis le début, mais là, de plus en plus. Et bah, forcément, l'environnement s'immisce dans la musique, et la musique se reflète dans l'environnement, il y a un espèce de dialogue entre les deux, et c'est hyper important, ouais, tout à fait.
Et du coup, quand tu enregistres des sons à l'extérieur, qu'est-ce que tu as enregistré, par exemple, pour le moment ? Le vent, la pluie, les oiseaux
Il y a énormément de choses. Non, mais ça va... C'est une zone assez industrielle, là où je vis, donc il y a énormément de bruit, lointain, plus ou moins lointain, en fait. J'habite en face d'une gare, donc forcément, il y a le bruit des trains. Et ça, c'est un bruit qui m'a marqué, parce que c'est des rythmiques, les trains, finalement. Il y a une espèce de poétique du bruit du train, quoi. Presque, c'est un élément important. J'ai enregistré les trains beaucoup dans les trains, autour des trains, et puis même dans toutes ces friches industrielles. C'est un environnement assez ambigu, parce que bon, c'est très vert là où je suis, mais en même temps, il y a quand même toutes ces espèces de friches industrielles, d'usines désaffectées, plus ou moins désaffectées. Il y en a qui sont encore en marche. C'est assez marrant. C'est vraiment une espèce de frontière, quoi, à mi-chemin entre.
D'où vraiment, le nom de ton album, du coup.
Entre, ouais, voilà, vraiment. Non, mais ça, c'est vrai que même le nom du EP est finalement symbolique de cet environnement aussi. Après, bon, je vais pas dire que 100% de la musique est liée à l'environnement. Il y a aussi mon environnement.
Bien sûr, ouais, tous les influences.
Il y a mon environnement cérébral aussi, la manière dont je me sens, la manière dont je vis. Enfin, il y a plein de choses. Mais l'environnement a une part importante, ouais, je pense. Et le fait qu'il y a cette espèce d'ambiguïté dans le décor, et c'est vraiment un mi-chemin entre la ville et puis une espèce de campagne, mais qui tend à apparaître progressivement, c'est assez bizarre, mais c'est important, ouais, je pense.
Et quel rôle ça a justement d'être seul toujours face à un public et face à toi-même quand tu composes?
C'est assez bizarre, c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai pris autant de temps à sortir des morceaux, parce que tu te poses toutes les questions tout seul, il n'y a pas de dialogue, en fait, et il n'y a personne pour te rassurer. Quand tu doutes à propos d'une idée, il n'y a personne pour te dire en contrepartie cette idée est intéressante, ou alors abandonne cette idée.
Ouais.
Donc finalement, c'est assez schizophrénique, quoi, comme démarche. Tu te bats avec toi-même, et puis je me bats aussi pour finir des morceaux. Des fois, il faut que je m'impose à moi-même une rigueur de travail pour arriver à finir un morceau. Comme je le disais tout à l'heure, il m'arrive de me lasser très vite.
Ouais.
Donc du coup, si je n'ai pas terminé en une semaine, il faut vraiment que je me force à terminer le morceau. Mais je pense que c'est assez destructeur aussi, et c'est un peu pour ça que j'ai autant d'esquisses non terminées et qui seront probablement jamais terminées. Mais c'est aussi un travail hyper intéressant. Moi, j'ai appris énormément sur moi-même en tant que musicien et en tant que personne à travers la musique, je pense, et à travers ce projet.
Une faute d'avoir des camarades de musique, quand t'es tout seul, est-ce que t'as des personnes un peu référentes ou ouais, de bons conseils?
Tout à fait.
Que t'estimes objectives?
J'en ai, bah, j'ai Corentin, déjà, bon, c'est un peu plus difficile maintenant parce qu'il me donne plus d'avis sur ma musique vu qu'on a un projet tous les deux.
Ouais, Milan.
Ouais, donc ça forcément, bon... Avant, c'était vraiment mon référent. Ça, c'est vrai que je lui ai envoyé énormément de morceaux. Je t'ai envoyé aussi énormément de morceaux.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai aussi. Là, plus récemment, il y a Nicolas de Polyjean.
Oui.
Que j'ai connu par le label Fin de Siècle, qui a sorti le premier single de Milan, qui lui est vraiment devenu, ouais, déjà un ami, puis en plus quelqu'un qui musicalement va me conseiller sur pas mal de choses. Lui, il est complètement autodidacte au niveau du mix et de la production, mais il a vraiment un talent incroyable. il sait travailler avec les bons outils et puis il a une oreille vraiment très développée. Et donc du coup, il me donne pas mal de conseils, mais c'est important. Mais même, je demande à ma copine, je demande à mon frère, je demande à ma mère. Bon, je fais écouter. Des fois, malgré moi, ils rentrent, je suis en train de travailler, donc forcément, ils écoutent. J'ai besoin d'avoir une oreille extérieure aussi. Ouais. Ça, c'est sûr.
T'as écouté un morceau de Polyjean, du coup, est-ce que tu t'en as un qui est prévu?
J'en ai un. Alors, il va falloir que j'aille le trouver. Mais d'accord. Alors, j'en ai un. Il aurait pas aimé que je le passe, je pense. Mais c'est une impro qu'il m'a envoyée, qui est complètement faite spontanément. C'est une jam qu'il a faite, juste avec sa TR-606 et puis quelques synthés. C'est complètement improvisé, mais c'est absolument génial. Donc, je vais le trouver. Et
on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris. Un morceau de Polyjean qui est donc assorti un album sur fin de siècle il y a l'année dernière et qui sûrement va continuer à nous surprendre. J'essaie de t'imiter Camille quand je suis perdu.
Ah micro. Merci, c'est sympa. Fais des longs E.
Tu vois le morceau ? Très bien, on va écouter Polyjean sur Radio Campus Paris. Thank you.
toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans l'émission Éter et Crack. Donc on vient d'écouter Cut Ends sans remix, c'est ça, Sébastien.
Là, c'était des percussions haïtiennes, c'était Drummers of the Société Absolument Guinan.
Tu peux répéter, s'il te plaît.
Ça, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup. Et les musiques traditionnelles, c'est, je pense, la musique que j'écoute le plus même. Et particulièrement les percussions, évidemment.
T'as toujours été assez tiré par ça, en effet.
Ouais, depuis le Gabon, en fait, là, je collectionne pas mal de vinyles de percussions gabonaises, et d'Afrique équatoriale, d'une manière générale. Puis même les polyrythmies au conservatoire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, avec Frédéric Firmin, mon prof, du coup, de percussions et de batterie au conservatoire, qui, lui, est d'origine martiniquaise, et qui a vraiment redécouvert le folklore de son pays natal, et qui me l'a transmis aussi, puisque du coup j'ai appris pas mal de rythmiques avec lui, rythmiques guadeloupéennes, martiniquaises, des rythmiques tribales en fait,
ouais.
Et puis d'Afrique aussi, et puis là, ouais, les percussions haïtiennes, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup dernièrement. Voilà, donc c'était un petit morceau, un petit extrait d'une compilation qui est très belle d'ailleurs.
Qui s'appelle comment ?
Bah, Drummers of the Société Absolument Guinan.
C'est ça, d'accord, ok.
Je l'ai répété.
Voilà. Du coup, en parallèle de Holy Strays, tu as lancé un nouveau projet il y a l'année dernière, c'est Milan ?
Ouais, voilà, tout à fait. Bah, en fait, c'est un projet que j'avais depuis longtemps et qui est très lié à Holy Strays, puisque dès le départ, en fait, quand j'ai commencé à écrire des instrus tout seul, c'était aussi pour que Corentin vienne chanter avec moi.
Ouais.
Et on en a parlé depuis toujours et ça, c'est un projet qu'on a depuis 5 ans, 5-6 ans, on en parlait. On écrivait des blues en hippocagne pendant les cours.
Des blues en hippocagne.
Et Milan, ça, c'est quelque chose qu'on a gardé de cette époque-là d'ailleurs. Ouais, c'est ça.
C'était quoi les accords du coup ? C'était...
c'était des blues en fa, tout ce qui est plus basique, mais voilà. Et du coup, bon, ça fait 2 ans qu'on répète. Et c'est un projet dans lequel je suis batteur essentiellement. Bon, ouais. Je fais aussi toutes les
instrus, quand même.
Toutes les instrus, ouais. Mais en live, je suis quasi qu'à la batterie. Et c'est vraiment un projet dont j'ai besoin parce que c'est le seul projet dans lequel je suis vraiment à la batterie. Puis en plus, c'est un projet dans lequel musicalement on se connaît parfaitement. Et donc il y a une espèce de symbiose. Enfin, vraiment, si je devais garder un groupe aujourd'hui, en marge de Holy Stray, ce serait Milan. Et il y aurait que. Enfin, c'est vraiment ces deux projets-là qui m'occupent le plus.
Donc il y a un premier 45 tours qui est sorti sur fin de siècle.
Sur fin de siècle, ouais, tout à fait.
L'année dernière aussi.
L'année dernière, en mai, ouais. Tout à fait, donc sur le label Fin de siècle, qui a sorti Geste, et puis Polygen, justement, qu'on a écouté avant les percussions haïtiennes.
Exact, ouais.
Donc cette excellente jam qu'il a fait live, non mixée, non produite, je tiens à le dire. D'ailleurs, à mon avis, il doit pas être très content que je l'ai passé, mais moi je l'adore, donc voilà. S'il m'écoute, un petit clin d'œil. Et donc le label Fin de siècle, qui a sorti Geste, qui a aussi sorti Archers by the Sea, un projet de... C'était le projet avant Cancun, en fait, le projet de Vincent Cayley. Ouais. Et puis bah, qui a sorti Milan, là, en mai dernier... Donc on est très content d'avoir sorti ce disque avec eux.
Et du coup, quel est l'avenir pour ce groupe ?
Un album aussi, je pense, cette année. Donc là, on a enregistré... En fait, Holy Stray, c'est vraiment plus un travail de recherche, puis de travail du son, d'expérimentation. Mm-hmm. Je travaille beaucoup la nuit, je fais des prises de son un peu partout. Avec Milan, c'est vraiment très rock, avant tout. Donc du coup, on avait besoin d'un studio. Donc là, on a enregistré en studio. Puis j'en ai aussi profité pour faire des prises de batterie pour Holy Strays, évidemment, des prises de percus. Et puis voilà, je pense un album cette année, je sais pas quand.
Et plus de scènes aussi.
Et plus de scènes aussi, ouais. De toute façon, plus de scènes pour Holy Strays et pour Milan cette année. Voilà, je sais pas comment ça va se répartir encore, j'ai aucune idée. Ça va dépendre de l'avancée de... Là, j'ai terminé le nouveau single Holy Strays. On va voir comment ça évolue pour Milan. Et puis voilà, mais bon, on peut écouter un extrait du coup de... 2000 ans,
ouais,
la phase B du 45 tours.
Très bien.
Qui s'appelle Try.
Try.
Oh. Scraping your rapper's wrist, the morphosis of killing. I'm sweaty, swinging the vocalist, choking on the motionless. Potty whacking, slaying crack, funny Tim and Bay slim. Mama said to give it back, pissing on a rapper in Gucci loafers. Assassin, lucky blacky black, North Face scuffing, scuffing the beat back. Gary when I'm sipping on Bacardi, I'm Dr. King when I'm trying to fucking sing, I'm Malcolm X when I'm saying I'm up next, munching up a rapper while I'm spitting on his neck. I'm moonwalking on the moon, I'm moonwalking on the moon, I'm moonwalking on the moon in this Gucci with a groupie and a bag full of shrooms, I'm moonwalking on the moon, I'm moonwalking on the moon, I'm moonwalking on the moon in this Gucci with a groupie and a bag full of shrooms,
toujours en compagnie de Liz Trace sur cette émission de Terre et Crack, Radio Campus Paris 93.9. On vient d'écouter un des remixes, enfin une des productions que tu as fait pour un rappeur irlandais.
Ouais, tout à fait, c'est Reggie Snow. En fait, c'est un remix de son premier EP qui s'appelle Lovelin, je crois.
Ouais.
Non, Rejovic, pardon. D'accord. Lovelin, c'était le premier single. Et donc là, c'est Snow. En fait, c'est son morceau Snow qui était le deuxième single du EP que j'ai remixé là il y a trois mois. Mais bon, question de timing et puis changement de manager. On l'a pas encore sorti, je sais pas s'il va sortir officiellement, mais bon, en tout cas, voilà, là, c'est une exclusivité.
C'est une belle production, en tout cas.
Ouais, c'est travailler avec des rappeurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Bon, après, ils sont complètement instables. J'ai eu plusieurs... Bon, j'étais en contact avec Alic Moll,
Ouais.
C'est un jeune rappeur de New York qui est hyper talentueux. Avec Mikey Blanco aussi.
Ouais, je me souviens de Mikey Blanco, t'avais été en contact avec lui pendant longtemps. Ouais.
Et bon, peut-être que ça se fera. Pour le moment, bon, on est en contact, je continue d'envoyer des instrus. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, je le sais. Mais bon, là, c'était vraiment mon premier pas dans le rap, vraiment. Donc, ouais. Ce remix, il n'est pas encore sorti, mais bon, Reggie, si tu m'entends, on peut encore le sortir. Mais bon, c'est vrai qu'il travaille avec le manager d'Elton John maintenant, donc il est un peu difficile à joindre. J'imagine. Mais bon, j'espère toujours que ça va sortir. Là, j'ai remixé Gucci Mane aussi.
Ah ouais?
J'ai remixé Gucci Mane.
Officiellement, en fait?
Ou... Non, pas du tout officiellement. J'ai juste, en fait, cet été, j'ai fait un break dans mes productions de Listraise et j'ai travaillé juste sur des instrus de rap.
D'accord.
Avec des sonorités complètement différentes, beaucoup plus froides, avec des samples de 808 et puis de boîte à rythme, des sonorités que j'aurais pas forcément exploité tout seul. Yes. Où je préfère que les percussions soient chaudes et acoustiques. Et du coup, j'ai fait une dizaine d'instrus rap, et puis là, j'en ai juste choisi une et je l'ai fusionné avec un a cappella de Gucci Mane, et je pense que je vais dévoiler ça, juste pour essayer d'attirer l'attention de quelques rappeurs. Et puis je pense que... C'est moi, je suis assez confiant, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et...
Ça fait assez longtemps qu'on en parle, d'ailleurs, parce que je me souviens qu'au moment où on écoutait Underachievers ou Flatbush Zombies, on a eu quelques échanges là-dessus.
Ouais, Flatbush Zombies, ça serait génial. Ouais.
Mais c'est vrai que ce serait possible à l'ère d'Internet, justement, comme tu le disais.
Ouais, tout à fait.
Du moment où tu es à Paris ou même en banlieue parisienne et tu peux sortir sur un label de Los Angeles.
Ouais, tu peux contacter n'importe qui, ça c'est sûr. Faut y aller avec un peu de panache, de toute façon, contacter NotNotFun en venant de région parisienne. J'ai envoyé un CDR, c'était aussi il y avait un côté.
Un peu au culot, quoi.
Ouais,
en fait,
ouais, tout à fait. Ouais. Faut y aller avec panache. C'est ma devise.
C'est ta devise. Donc, tu dois partir d'ici quelques minutes. Du coup, on va explorer la fin de ta sélection musicale.
Ouais, j'avais fait une sélection de 40 morceaux, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout passer, malheureusement. Là, j'ai un morceau de Duke Ellington que j'adore. Je sais plus vraiment de quelle période il date, parce que bon, Duke Ellington, il y a que des compilations dans tous les sens. Je sais pas du tout, mais c'est un morceau que j'ai beaucoup joué. Je l'ai joué en ensemble de percus.
D'accord.
Avec dans une espèce de fanfare, en fait, où il y avait un ensemble de cuivre très puissant. C'était une de mes premières grosses expériences en groupe. Donc, il s'appelle Blue Pepper. Il y a un morceau de Deceit, Fall of Saigon, que j'adore.
Ah bah évidemment. Ouais.
Le premier Deceit, qui est absolument génial.
Et ça, c'est un des plus beaux morceaux de Deceit par l'occasion.
Ouais. Le travail des voix est absolument incroyable. C'est vraiment ça me parle vraiment. Et le dernier, c'est Payled, et c'est un side project de Ian McKay avec le gars de Ministry.
Et yes, je me souviens qu'on avait déjà écouté ça.
Et c'est pour moi le meilleur EP des années 80.
D'accord.
Il est absolument incroyable et il est complètement méconnu. Donc l'EP s'appelle Trait, comme un trait,
de
Payled. Et il est absolument génial.
Donc Ian McKay, c'est le chanteur de Fugazi et de Manor Street.
Voilà, tout à fait.
Le situer. Bah, très bien, écoutez ces trois titres-là. Merci d'être venu nous voir.
Ouais, merci à vous de m'avoir invité.
Et puis on suivra ton actualité avec attention.
Et puis à bientôt pour un live, j'espère.
J'espère que tu pourras venir effectivement dans le studio passer jouer directement.
J'espère aussi. À bientôt.
Duke Ellington sur Radio Campus.
Thank you.
toujours à l'écoute de Radio Campus avec le dernier titre choisi par Sébastien qui a dû courir pour prendre son RER, c'était Pale Head, le projet qui réunit Al Jourgensen de Ministry et Ian McKay de Fugazi, donc pour un espèce de... C'est quand même plus influencé Fugazi, Ministry, je trouve, au niveau des voix et des rythmiques, c'est quand même plus industriel.
Plus carré.
On va écouter un titre de Lower, mon groupe préféré de la Terre entière, qui s'appelle Soft Option, qui est un extrait de la double compilation Document, dont je vais parler ce soir, mais dont je parlerai dans deux semaines, lorsque Cheveux viendront pour faire un live et une interview. Voilà, donc Lower, groupe de Copenhague, formé avec Anton Rothstein, qui fait partie de Ice Age, voilà, qui est globalement un des meilleurs groupes de punk aujourd'hui sur Terre. Et c'était Lower sur Atari Crack, Radio Campus Paris. On va se quitter donc en annonçant que dans deux semaines, il y aura Cheveux pour un live et une interview. Et Ben, tu as quelques larmes à verser.
Tout à fait, c'est la rubrique nécrologique d'Atari Crack. On voulait rendre un dernier hommage ce soir à Ruggiero Ortolani, qui est mort le 23 janvier dernier à l'âge de 87 ans. Donc essentiellement connu pour ses compositions musicales pour le cinéma, il a été très actif donc dans les années 50 aux années 90. Il a composé la bande originale de plus de 200 films, dont celle du très célèbre et culte Cannibal Holocaust. Le thème principal qu'on va écouter n'est même plus à présenter tellement il est super connu. Il a été d'ailleurs samplé par le Club des Losers sur le titre De l'amour à la haine, tiré de leur très bon premier album qui s'appelle Vive la vie. On se retrouve dans 15 jours.
On se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien d'ici là.
Allez, ciao.
Ciao.
Bonsoir.
shorter on the stage, the better in the shade. You know where's your place, there in the backstage.
Il est minuit sur Radio Campus Paris.